Bien, peut-être as-tu des réactions spontanées ou...
Oui, je vais faire quelques remarques, en particulier sur ce qu'a dit Schweitzer. Au fond, il me semble que, si j'ai bien compris, vous avez dit que s'il y avait des problèmes, c'est parce qu'il y avait des préjugés. Et que, au fond, si on éliminait les préjugés, on résoudrait les problèmes. Alors, est-ce que c'est si évident que ça? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de préjugés, il y a des préjugés. Mais est-ce
J'ai
que tout
aussi
est
dit qu'il y avait
préjugé?
des habitudes.
Et des habitudes.
Les habitudes, c'est beaucoup plus fréquent que les préjugés.
Alors, je
Et
voudrais...
même les préjugés sont un peu plus fréquents que l'hostilité, comme ça a été dit.
Les habitudes, c'est tout proche des rites.
Voilà. Mais citer un thèse de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, disant qu'elle réunit un groupe de travail, je cite donc. Le groupe de travail a enfin constaté que les pratiques apparemment discriminatoires relatives au logement et notamment aux attributions recouvrent en réalité des préoccupations d'ordre économique ou social de la part des bailleurs, qu'ils soient sociaux ou privés. Ces préoccupations concernent principalement les garanties sur le comportement vis-à-vis du voisinage et des autres habitants de l'immeuble et de l'ensemble immobilier, le maintien en état des locaux loués, la garantie de solvabilité, d'adaptation du logement à la composition familiale. Alors, il y a peu de temps, Le Monde a publié un article concernant l'augmentation en matière de délinquance des attaques de distributeurs automatiques de billets. Et l'article comprenait quelque chose, enfin, je pense que c'était quelque sorte une incitation, à certains égards, à la discrimination, disant la chose suivante, il y a une évolution, disons, dans ces attaques, parce qu'autrefois, les gens qui faisaient ces attaques étaient obligés de faire des repérages compliqués, de se renseigner pour savoir quels étaient les trajets des gens qui amenaient l'argent dans les distributeurs automatiques de billets. Mais maintenant, je cite toujours Le Monde, ce sont les mêmes gens, les mêmes populations, issues des mêmes quartiers, qui à la fois sont les délinquants et sont ceux qui participent à la fois au convoyage de ces billets et aux sociétés de surveillance. Par conséquent, il y a une certaine collision entre eux en ce qui concerne la transmission d'informations sur le circuit des convoyeurs de billets. Alors, ceci est une incitation puissante à la discrimination, puisque un employeur rationnel qui lit ce genre d'informations dira « mais je dois faire attention quand je recrute de savoir quels sont les risques que je cours en fonction du fait que je vais recruter telle personne ou telle personne ». Or, justement, on est, et je pense que c'est un élément du problème actuel, dans un fonctionnement du système productif dans lequel, parmi les exigences de compétences, se développent de plus en plus des exigences dites de savoir-être, et que ces exigences sont considérées comme faisant partie des éléments de l'efficacité productive et de la rentabilité de l'entreprise. Or, peut-on réellement affirmer que le savoir-être tel qu'il est conçu par les représentants des entreprises et tel qu'il participe au bon fonctionnement des entreprises est totalement indépendant de facteurs qui sont considérés comme des éléments de discrimination si les entreprises les prennent en compte. Et puis, dernier point, disons, vous avez évoqué la question de la vie commune. Je crois que de ce point de vue-là, il est très intéressant, au fond, de comparer comment fonctionnent dans la réalité les diverses sociétés plus ou moins multiculturelles. Et au fond, on pourrait, pour résumer, dire que plus une société est tolérante à la diversité, et on peut donner comme exemple extrême l'ancien empire turc ou la société indienne, plus elle est tolérante à la diversité, plus elle est ségrégée et plus elle est inégalitaire. Et que donc on a à faire un choix parmi les diverses formes de gestion de l'hétérogénéité entre d'un côté des sociétés qui sont quand même avec de grands respects de la diversité, mais très ségrégées et très inégalitaires, c'est ce que vous évoquiez à propos de la société britannique, et de l'autre, des sociétés beaucoup moins ségrégées et beaucoup moins inégalitaires, mais beaucoup moins tolérantes à la diversité. Et on voit, disons, dans la société néerlandaise, dans la société suédoise, en Europe du Nord, etc., que les sociétés qui ont essayé de combiner la non-ségrégation avec la grande ouverture à la diversité sont actuellement affectées par une montée du populisme qui montre qu'on a un rejet de cela par la population. Et donc, à travers tout cela, si vous voulez, on voit que l'idée, au fond, que vous évoquiez, pour terminer, au fond, l'idée de Rosa Ballon, c'est justement une représentation du lien social comme ayant été totalement reformatée conformément au modèle républicain d'une société dans laquelle les rapports entre les hommes seraient purement régis par la loi, par le respect des règles et par des principes de non-discrimination. Et que justement, notre problème et que ce modèle républicain inspire pour une part notre réalité, mais que pour une autre part, il ne l'inspire pas, et qu'il ne l'inspire pas, comme le disait Bourdieu dans son exemple, et comme l'a dit Claude Rivelin à propos de cet habitant new-yorkais, non seulement parce qu'il a des habitudes, parce qu'il a des préjugés, etc., mais parce que réellement, il conduit à des situations que personne ne tolérerait et que personne ne tolère, quelle que soit par ailleurs la force de ses convictions républicaines.
Vous voulez répondre ?
Oui. Reprendre quelques-uns des points cités par Philippe Diriba. Premièrement, vous avez dit, effectivement, en citant la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il y a des personnes qui se méfient de certains locataires pour des raisons liées, par exemple, à la couleur de leur peau. Deux remarques. Première remarque, bien sûr, quand on fait des tests, le rapport de 1 à 9, c'est des gens qui présentent la même solvabilité, les mêmes garanties, la même classe sociale et tout. Deuxième point, même à supposer que cela ne soit pas entièrement vrai, au fond, pour moi, de juger un individu par son appartenance à un groupe est quelque chose qui, à mes yeux, est au départ moralement insupportable. C'est de ranger quelqu'un dans une case, que ce soit une femme qui n'est pas capable d'avoir d'autorité parce qu'elle est une femme. On décide, les femmes sont incapables de... Donc, au fond, ce préjugé-là qui fait qu'on juge quelqu'un à partir d'une grille de lecture fondée sur l'appartenance à un groupe est quelque chose, c'est vrai, qui me choque moralement. Alors, c'est vrai que dans le modèle républicain, il y a une part pour une vie associative et vous avez parfaitement le droit de faire des associations, de ne fréquenter que des gens qui vous ressemblent vraiment. Je pense que vous vous appauvrissez en ce sens-là. Mais la République ne vous l'interdit nullement. Vous pouvez parfaitement n'aimer que les joueurs de golf. Mais quand, dans une entreprise, on fait de la capacité de jouer au golf une condition du recrutement, et j'en connais, on voit bien qu'on passe du domaine de l'association, de l'amicale, à un modèle de sélection fondé sur des critères sociaux. Et c'est ce passage-là que je trouve insupportable. Enfin, pour dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, les sociétés qui se prétendent faire l'égalité, la Grande-Bretagne n'y réussit pas parfaitement, en ne cherchant pas à rapprocher les gens, c'est-à-dire en les gardant séparés, finissent dans la ségrégation et échouent. Et les sociétés qui ne créent pas du lien entre leurs membres, c'est l'exemple néerlandais, échoue. Et c'est pour ça que je dis notre modèle d'intégration, qui ne sera jamais parfait, qui ne sera jamais parfaitement réalisé, est le meilleur modèle possible. J'ai conscience qu'il ne sera jamais complètement réalisé. Je dis, c'est ce vers quoi il faut tendre, en acceptant qu'il y a des limites, des difficultés, et que, pour prendre l'exemple des États-Unis, cela fait beaucoup d'années qu'on a supprimé l'esclavage, ça fait beaucoup d'années qu'on a supprimé la ségrégation légale, 45 ans aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire.
Je vois que nous allons arriver à la fin de la partie télévisée. Je voudrais qu'on parle de l'école. Dans le processus d'intégration, l'école joue un rôle très important. Et je crois que dans son livre, Philippe Diriba dit « L'école transmet des connaissances, mais n'a plus un rôle d'éducation ». Quelque chose comme ça. Et il se trouve que j'ai lu un article de François Dubet qui s'appelle « L'école à l'avenir derrière elle » ou quelque chose comme ça, où il montrait que l'école de la République fonctionnait avant selon des principes où on essayait de faire progresser tout le monde. Mais une grande différence entre l'école aujourd'hui et d'il y a un certain temps, c'est qu'aujourd'hui, les diplômes jouent un rôle beaucoup plus important que dans le passé. Dans le passé, on avait son certificat d'études et c'était bien. Et l'école avait un rôle beaucoup moins important pour l'accès à des positions sociales qu'aujourd'hui. Et de ce fait, parce que l'école devient importante, les parents ne rigolent plus avec leurs enfants, et notamment les enseignants, qui savent très bien comment aider leurs enfants à mieux travailler à l'école, choisir les classes, et qu'en fait, l'école avait pris une telle place dans la vie sociale qu'on peut être d'esprit républicain, égalitaire et tout, sauf pour ses enfants. Est-ce que tu as observé des choses de cet ordre ? Ça renvoie à un mécanisme tel que vous avez décrit, Rivelin.
Effectivement, il y a effectivement le deux registres. On est dans le registre des principes, et dans le cas, on affirme des principes, effectivement, on défend l'école ouverte, etc. Et puis, on a des enfants, et en même temps, on ne veut pas handicaper ses enfants. Le premier point que tu évoquais est aussi un point très important. Bon, les instituteurs de la Troisième République font peut-être de manière un peu naïve, croyaient qu'ils étaient vraiment porteurs des Lumières, qu'ils étaient porteurs et qu'en ayant un rôle éducatif, un rôle de discipline, etc., ils étaient en train d'élever les personnes qui leur étaient confiées en imposant aux petits Bretons, aux petits Basques, etc., de rentrer dans le moule français. Ils pensaient les faire échapper à leurs préjugés et les transformer en humains plus accomplis et dont ils n'avaient absolument aucun complexe à se livrer à une activité, pas seulement d'instruction, mais aussi d'éducation. On sait bien que actuellement, bon, les incertitudes autour d'eux, ne risque-t-on pas de devenir un élément de l'ordre moral? Ne risque-t-on pas d'imposer à ces enfants des valeurs qui ne sont pas les leurs, etc., font qu'on a un certain repli vers un rôle qui serait un rôle, disons, d'instruction, et dans lequel, à ce moment-là, bon, la question qui se pose est de savoir si en prenant ce parti, on respecte effectivement la liberté de tout un chacun, ou est-ce qu'au contraire, on les abandonne extrêmement désarmés et démunis face à une société française qui, comme tu le disais au début, reste extrêmement attentive, juge, classe, etc., et ne laisse pas passer ceux qui ne sont pas suffisamment dans le moule.
Tu parles souvent dans ton livre de montée du multiculturalisme. Alors je me suis demandé, comment peut-on l'interpréter? Est-ce un affaiblissement du modèle français, de la conception française, ou est-ce un effet de la mondialisation ou une demande très forte des nouveaux immigrés?
Je crois que c'est tout un ensemble de phénomènes. C'est à la fois quelque chose, disons, de mondial qui, par certains égards, vient d'une réaction, disons, aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, etc., au fond, du non-respect de ceux qui avaient une culture différente. Et donc, au fond, à partir de là, le respect des cultures est devenu quelque chose d'important. Vient de l'affaiblissement de la croyance dans la France patrie des droits de l'homme, de la France patrie de l'universel. On disait que tout l'homme a deux patries, la sienne et la France, etc. Bon, tout ça paraît maintenant des histoires auxquelles on ne croit plus. On aurait pu idée d'enseigner nos ancêtres les Gaulois en prenant comme ancêtre spirituel à tout un chacun, disons, sur la surface de la Terre. Donc il y a eu toute une série, disons, d'affaiblissements. Bon, et puis sans oublier les mouvements des années 60, il est interdit d'interdire, etc. Enfin, je crois c'est tout un ensemble de facteurs qui a conduit à une transformation en quelque sorte de l'idéal des Lumières, qui est passé de l'idéal des Lumières, c'est le rassemblement de tous dans une raison commune dans laquelle ils vont se retrouver pensant la même chose, à l'idéal des Lumières, c'est un égal respect pour chacun dans la diversité infinie des goûts, des couleurs, des coutumes et des convictions.
Alors malgré tout cela, le livre conclut que le multiculturalisme est une impasse et finalement revient à l'idée que le modèle républicain est quand même une bonne réponse et peut-être qu'il faut le réinventer. Je ne pense pas qu'en 2 minutes on ait le temps de donner les réponses, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus ou...
Un point peut-être. Quand même, le modèle républicain, j'y crois comme je l'ai dit et comme vous, mais notre universalisme avait quand même ses frontières. Vous avez cité le pied noir qui aimait ses voisins, mais il n'imaginait pas de leur reconnaître des droits juridiques égaux. Quand nous étions coloniales, nous ne reconnaissions pas les Africains comme nos égaux. Donc c'était un modèle universel, mais pas égalitaire. Et je pense qu'il ne faut renoncer à aucune des valeurs universalistes qui étaient notre base, mais y ajouter un supplément qui est que tous les hommes sont égaux en dignité. Et là, il me semble qu'on arrive à faire une meilleure synthèse.
Oui, là, je crois justement, vous évoquez finalement l'Algérie. On voit bien qu'au moment du décret Crémieux, donc, qui a donné la nationalité française aux Juifs et en Algérie et pas aux musulmans, ce n'est pas parce que cette nationalité n'a pas été proposée aux musulmans. Mais la condition pour acquérir cette nationalité était de renoncer à leur statut singulier, était d'accepter en particulier le code civil français et le code de la famille français. Et alors que les Juifs ont accepté de rentrer dans le droit commun français, les musulmans ont refusé de rentrer dans le droit commun français. Donc là, ce n'est pas simplement un refus discriminatoire, c'était la rencontre de l'universalisme et de la diversité, disons, des points de vue, dans lequel, finalement, la diversité l'a emporté sur l'égalité, mais dans une situation dans laquelle il paraissait impossible de combiner l'égalité et la diversité.
Nous allons continuer notre débat, mais les téléspectateurs ne pourront pas avoir la suite. Cela dit, s'ils veulent, ils pourront se reporter sur le site de l'École de Paris ou des Bernardins, où ils trouveront un compte-rendu de la discussion complète. Donc, on peut continuer, et puis les téléspectateurs nous rattraperont plus tard. Rivlin voulait intervenir.
Oui, oui, parce que le mot égalité me gêne terriblement. Parce qu'il s'agit de savoir si c'est une constatation, si c'est un idéal ou si c'est un mythe. Pour ma part, je pencherai pour le mythe. Le mot mythe dans ma bouche n'est pas un mensonge. Ce n'est pas quelque chose d'illusoire. C'est quelque chose de partagé. C'est une conviction que l'on admet. Et j'ai à cet égard une illustration tout à fait frappante. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 1er dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Les distinctions sociales, etc. Après, on dit pratiquement, c'est pas possible, mais fondamentalement, ils sont libres et égaux en droit. Il faut savoir que la Première République n'a évidemment pas donné le droit de vote aux femmes. Il a été rappelé qu'elles l'ont eu en 1944. Donc, les hommes naissent et demeurent, ça veut dire les mâles. Donc, homme, c'est homme. La deuxième chose, c'est que le suffrage était censitaire. Ça veut dire que c'est au-dessus d'un certain niveau de revenus qu'on avait le droit de voter. Et en outre, la majorité civile était à 21 ans. Autrement dit, les hommes sont libres et égaux en droit, à condition qu'ils ne soient ni femmes, ni pauvres, ni jeunes. Mais c'était une conviction partagée. Au nom de quoi ont-ils procédé à ces discriminations, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom? Parce qu'il y avait dans la philosophie des hommes des Lumières l'idée que pour choisir, il faut être libre. Or, une femme n'est pas libre. Puisqu'elle était, d'ailleurs, c'est parfaitement objectif, sous la dépendance juridique de son mari. Les pauvres ne sont évidemment pas libres, comme d'ailleurs Marx l'a souligné de façon absolument dramatique. Et les jeunes ne sont pas libres parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ne sont pas instruits, parce qu'ils ne sont pas adultes.
Et on peut souligner en ce lieu que les moines étaient considérés comme n'étant pas libres et étaient également exclus du suffrage.
Très juste. Effectivement, dans ce lieu, ça prend un certain poids. Conclusion, l'égalité, c'est un mythe parmi bien d'autres mythes. Comment un mythe s'établit-il? Réponse, lorsqu'il est cohérent avec des rites et avec les sentiments partagés de la tribu qui l'observe. Les Français ne supporteraient pas ce que supportent très facilement les Anglais, à savoir qu'une minorité d'électeurs élise une majorité à la Chambre des communes. En France, ce n'est pas possible. Ça, il y a des choses qui ne sont, qui sont pas acceptables. Encore que, d'accord. Alors, je voudrais ajouter une autre chose. C'est que un des apports de la recherche en gestion, c'est les automatismes de gestion dictés par les critères sur lesquels les gens se sentent jugés. Et je voudrais reprendre l'exemple des candidats à un logement évoqué par Louis Schweitzer, qui ne sont pas traités de la même manière selon les renseignements qu'il donne. Hubert Lévy-Lambert, un éminent économiste qui nous est proche, a observé que la distribution des revenus des habitants des HLM, habitations à loyer modéré, montre qu'ils sont beaucoup plus riches que la moyenne des Français. Pourquoi les habitants de ces logements qui ont été faits pour les pauvres sont-ils plus riches que les autres? Réponse, parce que quand on a créé l'Office public des HLM, on a eu le choix entre deux solutions sur leur mode de gestion. Premier mode, on les juge sur leurs résultats, c'est-à-dire sur la balance entre les loyers qui rentrent et les dépenses qu'ils doivent affronter. La deuxième possibilité, c'était l'attribution des logements, excusez-moi, à la tête du client. Alors, quand on fait avec le critère qui a été retenu des résultats financiers des HLM, entre deux locataires, on prend évidemment celui qui va payer son loyer. Or, une statistique malheureusement cruelle prouve que les riches payent plus souvent leur loyer.
C'était une étude récente ou...
Oh non,
c'est parce que ça,
aux années 60.
Il y a des mécanismes qui ont changé.
N'empêche qu'à l'époque, ça a été vrai. Oui. Et cette vérité a été profondément bouleversante pour ceux qui avaient prôné ce modèle social. Mais tout le monde était logique là-dedans. C'est que le gestionnaire, s'il prenait des gens insolvables, était mal jugé. Merci.
C'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de changer des comportements. Voilà. Mais pour revenir, pardon, à l'égalité, je suis d'accord que l'égalité, c'est quelque chose qui se définit comme un mythe, mais c'est aussi, à mes yeux, une valeur. L'égalité des droits, l'égalité des chances et, disons, une certaine égalité des situations de façon
à ne pas remettre en cause l'égalité des chances, d'une part, et d'autre part, à ne pas remettre en cause la dignité humaine. Et on voit bien qu'une certaine inégalité la remet en cause. Alors, c'est vrai que le contenu qu'on donne à l'égalité a changé, mais au fond, si je regarde l'évolution historique, c'est plutôt dans le même sens. Et, depuis la guerre en tout cas, c'est reconnu comme quelque chose d'universel. Et le fait qu'il y ait une déclaration des droits universels, oui, mais je crois que c'est très important aujourd'hui, où on entend dire qu'il y a des valeurs non occidentales qui ont les mêmes valeurs, qui ont plus de valeurs, etc., de reconnaître cela comme quelque chose posé de façon universelle.
Sur le modèle républicain, qu'est-ce qu'on peut en dire ? La fin du livre est de dire, je ne sais pas comment on peut conclure, il faut être prudent. Il y a une conclusion très courageuse qui est de dire toutes les idées simples sont hors-jeu, inopérantes, dangereuses, il n'y aura pas de solution simple au problème des immigrés. Mais ensuite, il conclut sur les vertus du modèle républicain. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait faire en sorte que tout immigré parle la langue, apprenne la langue, que l'école joue un rôle. C'est des choses qu'on entend.
Une première chose qu'on peut dire, au fond, on a parlé des problèmes d'immigration, disons, de manière très, très générale. Quand on observe la réalité, on voit qu'en fait, les carrières, disons, d'intégration des populations issues de l'immigration sont extrêmement diversifiées. On a de tout. On a depuis des personnes issues de l'immigration qui s'intègrent de façon tout à fait brillante dans la société française, qui, par les meilleures écoles, qui ont...
Notamment un immigré libanais qui devient président de Renault.
Par exemple. Oui, mais alors, c'est un peu intéressant ce que tu dis là, parce que lui, il est considéré vraiment comme étant tout à fait un immigré.
C'est un temps. Il l'était.
Quand on a demandé, oui, mais quand on a dit que Sarkozy, quand il y a eu de nouveaux... personnes qui ont été nommées ministres issues de l'immigration, on dit mais non, il y en a depuis longtemps. Sarkozy est issu de l'immigration, De Vetjean est issu de l'immigration. Disons, tout le monde a rigolé. Alors Carlos Ghosn,
oui, mais dans ce cas précis, parce que j'en ai entendu parler un tout petit peu quand même de Carlos Ghosn, quand il est arrivé chez Renault, il avait la nationalité libanaise et brésilienne, il n'avait pas la nationalité française. Et donc, il l'a prise après être entré chez Renault. Donc c'était vraiment de façon non équivoque. Alors on pouvait débattre, est-ce qu'il venait du Liban ou de l'Amérique du Sud ? Mais c'est clair qu'il était immigré.
Alors justement, sous son cas est intéressant, c'est du point de vue justement des réactions et de la subtilité des réactions de la société française. Parce que vous pourriez dire, au fond, un Libanais, il n'est pas maghrébin, mais il est arabe. Donc, c'est parti. Donc, Carlos Ghosn, quand même, c'est un président arabe. Pour les Français, je ne suis pas sûr que le Libanais, en plus Libanais chrétien, soit catégorisé vraiment là-dedans. Donc, on est vraiment dans une... Alors, je reviens.
Il n'est pas sûr qu'un footballeur qui est très prestigieux soit étranger.
Non, mais être étranger, moi, je crois que non.
D'origine.
La question là-dedans n'est pas d'être étranger ou pas étranger. C'est le corps politique. Pour le corps politique, le vrai critère, c'est est-ce qu'on est étranger, est-ce qu'on est français. Pour le corps social, il y a des étrangers qui sont extrêmement bien intégrés, on ne leur demande absolument pas de devenir français. Ce n'est pas le problème. Du moment que socialement, ils sont intégrés, s'ils ont envie d'être français, on est prêt à leur donner la nationalité française, mais on n'attend pas d'eux qu'ils deviennent français. Alors, sur l'avenir du modèle républicain, on voit que finalement, et dans les sondages auprès des personnes issues de l'immigration, on voit qu'un nombre considérable, en fait, a tout à fait envie de rentrer dans la société française et est prêt à faire toute une série d'accommodements pour rentrer dans la société française. Bon, il y a un livre intéressant qui est paru il y a quelque temps, de l'imam, par exemple, de Bordeaux, Tarek Obrou, qui donne des conseils aux musulmans, il est imam, donc c'est son rôle, sur la manière de s'y prendre vis-à-vis de la société française. Et le conseil qu'il donne, c'est de ne pas partir en guerre au nom de l'égalité des droits contre la société française, mais de tenir compte du fait que même si ça ne les enchante pas, tu as toute une série de préjugés et d'habitudes, comme vous les avez évoqués, et finalement de s'en accommoder sur des points qui, somme toute, ne sont pas absolument fondamentaux, relèvent de choses plutôt culturelles, disons, que de choses fondamentales du point de vue de la foi. Alors, ce qu'on constate, c'est tout. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ce chemin, mais que ce n'est pas parce qu'ils sont prêts à faire ce chemin qu'ils peuvent le faire facilement. Et là, je pourrais donner des témoignages, y compris de gens qui sont issus de l'immigration tout à fait intra-européenne, qui sont vraiment complètement indiscernables dans leur apparence, disons des Français, qui ont fait les meilleures études, etc., etc., et qui, après avoir passé 20 ans ou 30 ans en France, vous disent « les Français, on ne les comprend pas ». On voit qu'on est en permanence sous-pesé, jugé, que de temps en temps on est accusé d'avoir fait des choses impossibles, mais on ne sait pas pourquoi. Les Français sont d'une opacité absolument terrible. Et je pense qu'il y a déjà quelque chose...
C'est ce que disent aussi les Américains.
Oui, oui, mais tout le monde dit ça. On n'a pas du tout besoin d'être issu de l'immigration pour dire que les Français sont opaques. Alors, je pense par exemple que les Français pourraient être un peu moins opaques. Pourrait faire en sorte que ceux qui ont vraiment envie d'agir d'une manière qui soit pas seulement politiquement respectable, mais socialement respectable, sachent au moins ce qu'ils doivent faire. Et qu'actuellement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'école, je pense qu'au nom du respect de la diversité, du respect de la diversité des cultures, etc., etc., finalement, on a plutôt tendance à abandonner et à laisser se débrouiller des gens qui auraient beaucoup plus envie qu'on les accompagne et qu'on les aide. Je pense qu'il y a quelque chose dans un autre domaine qui rejoint ça, et si vous permettez, tiens, en rapport avec la question de l'ALDE. Il y a quelques mois, le ministère des Finances a organisé une réunion à Bercy dans laquelle il a fait témoigner un certain nombre de gens issus de toute une série de populations, de pays, aussi bien la Belgique, les États-Unis, l'Australie, etc., sur leur politique vis-à-vis de la diversité. Et donc les gens ont expliqué ce qu'ils faisaient. Et entre autres, la représentante belge a expliqué qu'en Belgique, dans l'administration belge, en concernant l'accès aux postes vraiment du top de responsabilité, il y avait toute une action de coaching auprès des gens qui étaient susceptibles d'y accéder, mais qui vraiment ne se sentaient pas tout à fait prêts. Et donc il fallait accompagner pour les socialiser de manière telle qu'ils puissent accéder à ces situations supérieures. Et une représentante de la HAL qui était présente dans la salle est intervenue en s'indignant, en disant « mais c'est scandaleux de mettre en place une politique qui soit une politique d'accompagnement des gens, parce que le problème ne vient pas de s'il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, le problème vient uniquement et totalement de la discrimination, et de mettre en place des politiques d'accompagnement des gens qui sont ainsi en position relativement défavorable, et supposer que tout n'est pas dû à la discrimination. » Et je peux dire que cette intervention a été extrêmement vigoureuse et passionnée. Je m'étonne quand même de ce type d'intervention.
Si je peux dire une chose. D'abord, je suis d'accord avec votre critique de l'opacité. Deuxièmement, je ne crois pas qu'elle soit différente en France de ce qu'elle est ailleurs. Enfin, je ne connais pas tous les pays. Je travaille un peu en Grande-Bretagne, un peu en Suède, un peu aux États-Unis. Dans ces pays, je vois des codes secrets aussi présents que les codes français. Donc je pense que toutes les sociétés sont opaques à celui qui n'en pénètre pas les mécanismes. Troisième point, pour venir à votre point, je ne suis pas d'accord avec la personne qui parlait au nom de la HALDE ce jour-là. Mais la HALDE étant une institution ouverte et libre, il y a au sein de la HALDE différentes opinions. Cela dit, moi, en dialoguant avec les gens, je voyais quand j'allais en banlieue que les jeunes gens que je voyais, quand on prononçait le mot « intégration », reculaient. Au fond, c'est un mot qu'ils ne prenaient pas, parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur demandait un reniement sans contrepartie. Donc, ils ne percevaient pas les chances. En revanche, ils demandaient deux choses. Connaître les codes et accéder au réseau. Et effectivement, je crois que dans notre système d'enseignement-formation, la connaissance des codes et l'accès au réseau sont des points essentiels. Les grandes écoles, une de leurs forces, en dehors de la qualité éminente de ceux qui y entrent, en dehors de l'excellence de l'enseignement, c'est le fait qu'elles constituent après un réseau. Quand on cherche, on ouvre son annuaire. Et donc, l'accès au réseau et la connaissance des codes, c'est, à mes yeux, une vraie demande. Et il faut y répondre de façon aussi professionnelle qu'on le fait sur l'apprentissage de toute autre matière.
Alors nous allons devoir passer la parole à la salle et je vais vous proposer une conclusion provisoire. Le modèle républicain ayant ses vertus, pour aider les gens à en tirer profit, il faut beaucoup d'efforts et les aider. Quand je parlais de l'école de tout à l'heure, je pensais au film « Entre les murs ». Quand on voit ce film, beaucoup l'ont vu, je suppose, on se dit « c'est pas par là que ça va passer ». On sent bien que ce n'est pas un système qui aide aux gens à rentrer dans la manière française. Mais je me suis rappelé d'une séance que nous avons faite à l'École de Paris il y a quelque temps. Je ne me rappelle plus le nom de l'orateur, mais le titre que j'avais donné à la séance, c'est « La percée du général des banlieues ». Un général qui était adjoint au gouverneur de Paris, arrivant de je ne sais plus quel pays, faisant le tour de la banlieue, il devait se soucier des rapports entre l'armée et les citoyens. Il voyait beaucoup de gens venant de l'immigration arabe qui ne se sentaient même pas français. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc il a commencé à discuter, mais enfin il faut quand même qu'ils se sentent, qu'ils sont dans un pays qui les accueille, il faut qu'ils se sentent français, etc. Et alors il a imaginé le dispositif suivant. Premièrement, dire aux gens de s'intégrer, ça ne marche pas, il faut une carotte. Alors la carotte, c'était le permis de conduire. Je vous permets d'avoir le permis de conduire en 9 mois. Ça, c'est un enjeu considérable d'avoir le permis de conduire. Deuxièmement, vous allez trouver un emploi pendant quelques mois. Et à la sortie, si ça se passe bien, vous pourrez garder un emploi. Troisièmement, vie collective. Pour reprendre ce que disait Lou Schweitzer, il a développé des activités sportives. Il a fait un partenariat avec l'équipe de France de football ou la Fédération française de football qui a fait qu'il fallait que les gens se lèvent tôt et tout, et une activité collective. Puis après, il s'est dit, un des grands problèmes de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire. Nos ancêtres et les Gaulois, ça ne veut rien dire. Ils se demandent quelle est leur place dans l'histoire française. Et il leur a fait un cours sur l'armée d'Afrique en disant que la plupart d'entre eux venaient, leurs parents, leurs grands-parents avaient été dans l'armée d'Afrique. Et alors ce cours a eu un succès extraordinaire, d'après ce qu'il a dit, auprès des jeunes. Et au bout de quelques mois de formation, il y avait beaucoup d'énergie qui était dépensée, il avait réuni autour de lui un groupe de jeunes extraordinairement motivés. Ce qui fait que pendant les émeutes des banlieues de je ne sais plus quelle année, il n'y a eu aucun problème chez lui. Et au moment de la fin, au moment où il devait prendre sa retraite, il y a eu 300 jeunes qui étaient venus pour l'honorer. Et bon, autrement dit, voilà quelqu'un qui a trouvé une manière pour mobiliser les gens, qui a développé une activité astucieuse, mais ça demande une énergie absolument considérable. Et donc c'est peut-être beaucoup d'énergie et beaucoup d'inventivité qui peut nous permettre aujourd'hui de décliner le modèle républicain pour faire face aux défaillances des autres systèmes traditionnels. C'est une conclusion provisoire qui sera peut-être remise en cause par les questions de la salle. Voilà.